Bonjour à tous, l'émission d'aujourd'hui a été préparée par Cédric Fuentes, Louis Drillon, Arjuna Andrade, Ise Tsikar et Aliette Ovin. À la réalisation, Elisabeth Miro, prise de son, Emmanuel Morse-Duncan.
Entendez-vous l'écho ? Tiffaine de Rocchini.
France Culture ouvre le débat, journée spéciale sur notre antenne, alors que le chef de l'État a envoyé hier sa lettre aux Français, dessinant les contours du grand débat national censé répondre à la crise des gilets jaunes. Des discussions dans lesquelles les questions économiques et sociales, ferment de la contestation, devraient figurer en bonne place. Parmi les quatre thématiques choisies par Emmanuel Macron, c'est celle des services publics, de leur rôle et de leur coût qui a retenu notre attention. Comment garantir l'efficacité des services de l'État ? Voilà un épineux problème que le nouveau management public cherche à résoudre depuis la fin des années 70. La solution se cacherait-elle du côté des méthodes du privé ? Eh bien, c'est la question qui va nous occuper aujourd'hui. Il est 14h sur France Culture. Bienvenue dans Entendez-vous l'écho. Nous allons parler des effets du management privé sur le secteur public en compagnie de Nicolas Matijazik, enseignant à Sciences Po Lille, co-auteur de l'évaluation des politiques publiques, défi d'une société en tension paru chez l'Harmattan. En compagnie également de Nicolas Bellorget, chercheur au CNRS, auteur de l'Hôpital sous pression, enquête sur le nouveau management public paru à la Découverte, et d'Emmanuel Didier, chargé de recherche au CNRS, co-auteur de Stataktivisme, comment lutter avec des nombres, publié également à la Découverte. En fin d'émission, on retrouvera les nouvelles de l'écho, présentées par Arjuna Andrade.
Ce qu'est le service public, d'abord partout dans le monde, c'est la reconnaissance que tout être humain doit avoir le droit d'un accès à de l'eau potable, d'un accès à des chemins, des routes pour se déplacer, d'un accès au téléphone, au chemin de fer, à l'école et un minimum de soins de santé. Le service public, c'est principalement tout ça. Aujourd'hui, on pourrait y ajouter le droit à des émissions de radio ou de télévision dans des conditions qui ne soient pas seulement profitables. Mais le marché, là, peut couvrir. Tandis qu'en ce qui concerne les routes, la police, la justice, l'école, il n'y a pas d'alternative.
Bonjour Nicolas Matijazik, Nicolas Bellorget et Emmanuel Didier.
Bonjour.
Bonjour.
Merci beaucoup d'être avec nous. On vient d'entendre Michel Rocard dans l'émission L'Université de tous les savoirs. C'était le 16 juin 2000. Nicolas Matijazik, on va commencer avec vous. Qu'est-ce que ces mots vous inspirent d'abord? Et quelle est votre définition à vous du service public?
Alors, ce que ces mots m'inspirent, c'est que la réforme de l'État, en fait, et la question sur l'efficacité des services publics n'est pas une question nouvelle. C'est-à-dire que c'est même une question sempiternelle. Depuis qu'il existe une fonction publique, depuis qu'il existe une bureaucratie, sa légitimité, son efficacité est remise en cause. On vient de l'entendre avec Michel Rocard, donc on était très certainement dans les années 80, voire 90.
Alors à ce moment-là, c'était les années 2000, mais c'était peut-être un retour d'expérience.
Donc effectivement, quand il était Premier ministre, avec le renouveau du service public, notamment en 1989, Michel Rocard pose les bases d'une réforme de l'État, une transformation des organisations publiques. Cette question revient souvent, notamment parce que le politique, quand il gouverne, il veut paraître moderne. Il veut paraître moderne et il doit désigner certains ennemis, et notamment, depuis un certain temps, ceux qui sont des ennemis, ce sont les fonctionnaires, c'est cette bureaucratie qui ne serait pas assez efficace et sur laquelle on devrait calquer les méthodes du privé qui est souple, innovant et qu'il faudrait copier. Et ça, on y reviendra probablement dans le cadre de la discussion.
On va revenir sur cette question d'une possible rhétorique anti-bureaucratique. Mais d'abord, un mot d'actualité. Oui,
juste pour la définition des services publics. Mais des services publics, ce sont des services qui garantissent l'intérêt général et qui sont le patrimoine en fait de ceux qui n'ont pas de patrimoine. Autrement dit, qui permettent aux individus qui n'ont pas de capital social, culturel, économique, de pouvoir avoir un matelas social qui leur permette de faire des études, de se soigner et donc de s'émanciper.
Alors voilà pour la définition. Dans sa lettre aux Français, Emmanuel Macron parle de bâtir un nouveau contrat pour la nation. Il propose, je cite, de supprimer certains services publics qui seraient dépassés ou trop chers par rapport à leur utilité et d'en créer éventuellement de nouveaux. L'organisation de l'État et des services publics constitue en effet l'une des quatre grandes thématiques retenues pour ce débat, comme je le disais. Quel regard portez-vous sur ce choix, sur cette attention spécifique qui est portée aux services publics, Emmanuel Didier?
Je vais répéter ce que vient de dire mon camarade. En effet, tous les gouvernements s'intéressent aux services publics et essayent de remettre en cause, ou plus exactement, de mettre en place des réformes qui iraient vers plus de...
C'est aussi une question qui est peut-être revenue dans l'actualité avec la crise des Gilets jaunes.
Oui, c'est une question qui est revenue dans l'actualité avec la crise des Gilets jaunes et qui effectivement fait probablement suite à toute une longue période qui a eu lieu depuis 20-30 ans avec le développement du nouveau New Public Management qui probablement est arrivé maintenant vraiment à sa fin, quoi. Qui ne produit plus du tout les effets qui avaient été projetés initialement et qui maintenant donc pose de nouvelles questions.
Alors on va revenir aux origines de ce nouveau management public. Vous l'avez dit, Nicolas Matijasi, que la question de l'efficacité des services publics, c'est une question ancienne. Alors il s'agit à la fois des bénéfices attendus de l'action publique, de la qualité du service rendu à l'usager, mais aussi de l'efficacité économique. C'est à ces trois défis que le nouveau management public a cherché à répondre à la fin des années 70, au début des années 80, Nicolas Bellanger.
Oui, tout à fait. On peut le faire remonter, comme vous le dites, fin des années 70, début des années 80, plus particulièrement aux administrations Reagan aux États-Unis et Thatcher au Royaume-Uni. Donc respectivement 80, 79. L'idée à ce moment-là, c'était d'importer dans le secteur public les pratiques et les idées et les méthodes du secteur privé.
Grande-Bretagne, l'idée était aussi de réduire les impôts et peut-être ça allait dans le sens d'une volonté, d'un certain désengagement de l'État.
Absolument, ça faisait partie d'un programme politique conservateur qui avait donc un objectif de réduction d'impôts, de désengagement globalement de l'État et on pourrait dire de désingularisation de l'État par rapport au secteur privé. C'est-à-dire que l'idée générale sous-jacente, c'est que la norme, ça serait le secteur privé. On ne sait pas pourquoi, on ne s'interroge pas sur pourquoi il y a un État, sur comment ça fonctionne, etc. On a l'impression, ou on donne l'impression, ou un petit peu tout ça en même temps, qu'il ne va pas bien. Et on cherche donc à importer dedans des méthodes qui auraient fait leurs preuves déjà dans le secteur privé.
Je vous en prie.
Merci. Donc, parce qu'on se demande ensuite comment est-ce que c'est arrivé jusqu'en France.
C'était la question que j'allais vous poser.
Le lien avec l'actualité. Donc ensuite, il y a eu beaucoup d'avatars, de transformations de ce nouveau management public. Au Royaume-Uni, vous avez par exemple eu la troisième voie avec Tony Blair. Ça a été repris aussi par Bill Clinton, démocrate pourtant aux États-Unis. Et en France, ça a été importé un peu avec des transformations un peu plus compliquées. Ça a été notamment la thématique de l'État stratège et la loi organique sur les lois de finances qui a été votée en 2001 en est tout à fait représentative dans le sens où elle cherche à faire fonctionner l'État non plus en fonction de règles, mais en fonction, on va dire, d'objectifs. Et ça, c'est typiquement l'importation dans le secteur public de la logique projet qui elle-même avait été reprise à d'autres sources. Notamment le mouvement 68 ou des philosophes autour, par le secteur privé et surtout beaucoup développé dans le secteur privé, on appelle ça le management par projet.
Et justement, les prémices du nouveau management public en France, c'est la rationalisation des choix budgétaires, cette technique expérimentale de gestion des finances publiques qui avait été mise en place en mai 68, Nicolas Matijasik.
Tout à fait. Si on refait la genèse en fait de ce New Public Management, toute cette nouvelle gestion publique, on regarde et on peut voir que ça arrive en fait dès les années 30, même les années 40. Ce qu'on appelle le néolibéralisme, cette nouvelle forme de libéralisme née avec Hayek, von Mises, va progressivement mettre les cadres de pensée pour qu'on arrive en fait à la fin des années 70 et au début des années 80 à ce New Public Management en introduisant en fait des notions. La performance, la compétition entre les individus, L'individualisation aussi là où il y avait du collectif, maintenant il faut mettre davantage d'individuels, le renfermement en fait sur soi, donc une compétition permanente entre les individus, entre les structures, et tout ça, ce que font les néolibéraux, ils le font avec des think tanks, ils le font avec des revues, ils imposent en fait les cadres du débat, qui fait que dans les années 70, quand on est face la montée du chômage de masse, à la crise et les chocs pétroliers, leur solution, le secteur public ça fonctionne pas, regardez, les mecs n'arrivent pas à répondre aux enjeux, donc faisons comme le privé, parce que le privé, avec ses méthodes de rationalisation, de management, est performant. Et c'est la performance vers laquelle il faut tendre.
Et c'est un nouveau management public qui se construit en opposition avec la bureaucratie weberienne. Alors qu'est-ce qu'on reproche à la bureaucratie telle que Weber l'a définie?
On reproche à cette bureaucratie de ne pas être transparente, d'être trop lente, de ne pas assez rendre des comptes, de ne pas être assez souple. En fait, c'est tout ce lexique, parce que les néolibéraux ont aussi gagné parce qu'ils ont imposé leurs mots. C'est ce que montre très bien un politiste qui s'appelle Serge Lakoff. Ils ont cadré les débats avec leurs mots. Et c'est ça qu'on reproche au secteur public. Et à contrario, on dit, regardez, le secteur privé fait du profit, il faut que les administrations fassent du profit, il faut faire des économies, et donc il faut confier au secteur privé certaines missions pour qu'il soit plus performant. Et donc il y a moins besoin de fonctionnaires pour se faire, mais plus besoin d'externalisation.
Alors justement, est-ce qu'il s'agit d'un retrait de l'État ou au contraire d'un renforcement à travers un plus grand contrôle exercé sur les fonctionnaires? Écoutons le point de vue du sociologue Frédéric Pierru.
Par certains côtés, l'État se rétrécit avec les mouvements de privatisation, de libéralisation, mais en même temps, pour reprendre l'expression de Pelletier et Bonelli, se caporalise, c'est-à-dire qu'on a un redéploiement bureaucratique, et il y a tout un ensemble de travaux, effectivement, qui aujourd'hui redécouvrent qu'en quelque sorte, on serait en train d'assister à une seconde révolution bureaucratique, c'est-à-dire un redéploiement des formes bureaucratiques, avec des formes de renforcement de hiérarchie, d'autorité hiérarchique, alors qui passe par des indicateurs de performance, par des contrats, etc. Mais derrière, effectivement, le pouvoir, l'autorité, les chaînes de commandement se réaffirment via notamment ce qu'on appelle le New Public Management.
Nicolas Bellorget, vous parleriez vous aussi d'un redéploiement bureaucratique?
Oui, je suis tout à fait d'accord pour dire qu'il y a ces deux aspects. Le premier aspect de réduction de l'État, quant à son périmètre, quant à ses moyens, quant à l'accessibilité des services publics. Et de l'autre côté, une normativité plus forte dans son mode de fonctionnement.
C'est en cela que vous parliez tout à l'heure de cet État stratège. Qu'est-ce que ça signifie concrètement, Nicolas Matijasic, le fait de passer de l'État providence à l'État stratège? Qu'est-ce que ça implique concrètement?
Oh. C'est une question délicate. Je ne sais pas ce que ça implique, mais en tout cas, je sais quels sont les effets, en fait. C'est-à-dire l'État qui apparemment devrait se retirer de certaines missions pour n'en assurer que certaines, qui sont définies comme stratégiques. Ça implique en fait, ça implique moins de services publics dans les territoires, parce que la question, elle est aussi là quand on parle des services publics. C'est-à-dire comment on maille le territoire, comment on fait société dans les territoires, comment on permet à certains d'avoir accès à des prestations. Donc ça implique notamment ça, ça implique un État qui développe des capacités d'expertise et seulement d'expertise, qui fait moins mais qui donne en fait des compétences à d'autres et qui met de fait l'intérêt public dans les mains des intérêts privés. Et c'est ça aussi la question que pose le New Public Management, c'est le passage de l'intérêt général au développement des intérêts privés et de la captation en fait de l'intérêt général par des intérêts privés. Ce que montrent très bien des sociologues, des politistes, notamment Antoine Vaucher, qui montrent en fait comment certains groupes organisés, privés, vont capter les ressources de l'État pour développer en fait leur business. Et ça pose des questions et des problèmes.
L'usager va être redéfini comme client, et c'est l'idée que le consumérisme serait finalement applicable aux services publics. Nicolas Bellorget.
Je vais répondre à votre question, mais je voulais rebondir sur quelque chose qui vient d'être dit et sur le rapport avec Max Weber de tout à l'heure. Au moment où Max Weber écrivait, il y avait un grand souci de définition de l'État par rapport au secteur privé, par rapport aux intérêts privés. C'est pour ça qu'il a beaucoup insisté sur le caractère impersonnel et sur les règles. Or, ce qu'on observe dans le nouveau management public, c'est que cette dimension ne disparaît pas, mais qu'elle est mise en veilleuse par rapport à deux autres. Alors, il y a des politistes qui ont été frappés par la chose, on va dire, avant nous, qui viennent de là où elle a été inventée, c'est-à-dire aux États-Unis et au Royaume-Uni, et qui ont réfléchi déjà depuis un moment, donc ça peut être intéressant de voir ce qu'ils écrivent sur la question. Ils ont commencé à écrire dans les années 90, je pense notamment à Christopher Hood, Royaume-Uni. Pour lui, dans toute action publique, alors il dresse un grand panorama à travers les âges et les pays, il y a trois dimensions qu'on retrouve tout le temps. Il y a la dimension d'économie de moyens. C'est celle qui va être mise en avant par le nouveau management public. Il y a la dimension de fiabilité, qui est un peu antagoniste de la précédente, et il y a celle qui serait en fait première, qui est la dimension de justice, c'est-à-dire qui se traduit dans les règles, l'équité d'accès. Et pour lui, le nouveau management public, c'est tout simplement un déplacement du curseur au détriment de la seconde et de la troisième, de la fiabilité et de la justice, de l'équité d'accès, donc moins d'accent sur les règles, et au profit de l'économie de moyens. Donc ça, c'est pour les Anglais. Vous avez ensuite... Enfin, c'est pour le premier Anglais. Il y en a un autre, je ne résiste pas au plaisir de vous le citer, même si je déborde un petit peu parce qu'il est très intéressant, c'est Christopher Polit, qui a, en 1993, analysé le nouveau management public déjà comme une forme de néo-taylorisme. Donc le taylorisme, vous vous rappelez, c'était l'introduction du chronomètre dans les usines pour augmenter les cadences.
Voilà, il y a cette même idée de partialisation aussi.
Exactement. Et de performance déjà.
Partialisation, oui, des tâches, des performances, voilà.
Voilà. D'individualisation et d'externalisation en fait des conceptions. C'est-à-dire qu'on va prendre pour le taylorisme aux ouvriers, pour le nouveau management public, aux fonctionnaires de premier rang qui sont au contact des usagers, le savoir que... D'habitude, on va dire, il déployait en pratique. On va le conceptualiser dans des bureaux des méthodes, à l'époque ça s'appelait comme ça, et on va le réinjecter sous forme d'indicateurs à suivre, ce faisant en retirant une grande part de liberté aux acteurs, à qui on ne fait plus confiance, et en leur imposant ces indicateurs. Alors pourquoi Néo, et je finis là-dessus, c'est parce que, bon d'abord on passe de l'industrie au service, ce qui pose un premier problème conceptuel, est-ce que c'est applicable dans une relation de service où la moitié de la production est faite par l'usager? Et ensuite on passe du privé au public, ce qui pose aussi des problèmes, puisqu'il n'y a pas que le profit comme objectif. Merci.
Emmanuel Didier, vous voulez réagir?
Oui, il faut aussi prendre une casquette de sociologue pour bien comprendre le succès du New Public Management. Et voir que dans les bureaucraties, en fait, il y a évidemment plusieurs strates de fonctionnaires. Et le New Public Management, le problème de Weber, c'est que si jamais on félicite les gens pour simplement suivre les règles, on a beaucoup de mal, enfin, les personnes qui sont en haut de la hiérarchie ont beaucoup de mal à prouver leur exceptionnalité. Ils ont beaucoup de mal à prouver qu'ils sont des gens vraiment exceptionnels et qui méritent de... Alors qu'avec le New Public Management, en leur fixant des objectifs, en leur demandant en permanence de prendre des initiatives, de prouver leur valeur, etc., on a un service public qui est beaucoup plus attractif pour ces élites. Et donc ça permet de faire revenir, ou au moins de conserver certaines élites dans le service public qui, autrement, surtout dans les années 80, étaient attirées par par le privé qui était beaucoup plus rémunérateur. Donc il faut aussi comprendre qu'il y a aussi des gens qui sont intéressés par, qui sont intéressés au sens où on essaie de leur plaire et ces techniques-là visent à les retenir.
Cela pose évidemment la question de l'efficacité de ce nouveau management public et de la pertinence à importer comme cela les logiques du privé dans le public. Ce qu'on peut dire en tout cas, c'est que ce nouveau management public introduit la question de la motivation des agents publics. Désormais, c'est l'initiative qui est valorisée davantage que le respect de la procédure, mais en contrepartie, les contrôles et les évaluations vont se renforcer, Nicolas Matijasic.
Oui, on voit que le New Public Management apporte avec lui tout un lot de dispositifs d'évaluation, de mesures, de rationalisation. L'évaluation des politiques publiques, notamment, on en parle depuis très longtemps en France. Alors ça revient tous les ans à la mode, hein, régulièrement. On a le printemps d'évaluation des politiques publiques. On en parlait déjà dans les années 60, mais on ne sait pas le faire. En tout cas, on le fait pas très bien. Ou les résultats ne sont pas utilisés. Il y a en fait une grande dissonance dissonance entre ce que dit le New Public Management, c'est-à-dire il faut évaluer, et le fait que le New Public Management ne s'applique jamais en fait des formes d'évaluation. C'est-à-dire que on ne sait pas si ça fonctionne ou si ça ne fonctionne pas, le New Public Management.
L'évaluation n'est pas évaluée.
En tout cas, l'évaluation est très peu
évaluée.
Ouais, c'est la question de la méta-évaluation de fait. Mais il y a une espèce d'ironie avec le New Public Management. Il s'impose en fait comme un régime de vérité, si on prend les termes de Foucault quand il parle du néolibéralisme, il s'impose comme un régime de vérité qu'on devrait prendre en fait, et c'est très bien, c'est ce que peut-être on va s'en dire de moi avec les travaux d'Emmanuel Didier, mais impose le chiffre dans le débat, qui clôt le débat et qui ne permet pas en fait de mettre en question les résultats, ce qui est dit, ce qui est produit. Et il y a un grave problème démocratique en fait avec le New Public Management, c'est qu'il confisque, je trouve, pour partie la décision.
Emmanuel Didier, d'un mot.
C'est vrai que les institutions produisent leurs propres chiffres qui leur permettent de mesurer leur de façon un peu absurde, si j'ose dire, leur propre progrès. Mais ce qu'on peut observer, c'est le sens du mot stat-activisme qui est difficile à dire, c'est qu'en fait, les acteurs qui sont soumis à ces bureaucraties, donc par exemple les gens qui se promènent dans la rue en ce qui concerne la police, trouvent des façons de eux-mêmes de produire des systèmes d'évaluation qui sont hors de la bureaucratie. Donc ça, c'est très intéressant. En fait, on s'aperçoit que les gens, si j'ose dire, ou enfin je sais pas comment les appeler, ça demande de longs séminaires pour trouver le mot, mais les gens parviennent à produire des systèmes d'évaluation, si on peut dire. C'est souvent des systèmes critiques des méthodes qui leur sont appliquées. Donc ça, c'est toujours très intéressant à voir qu'il y a une sorte de créativité sociale de réponse à ces chiffres.
Alors justement, on va se pencher sur des études de cas pour illustrer le fonctionnement de ce nouveau management public. Et avant d'en venir à la police avec vous, Emmanuel Didier, on va s'intéresser à l'hôpital avec vous, Nicolas Bellorger. Vous êtes l'auteur de cet ouvrage « L'hôpital sous pression, enquête sur le nouveau management public ». Je vous propose d'écouter d'abord le professeur émérite de diabétologie au CHU de la Pitié-Salpêtrière, André Grimaldi.
La qualité, c'est un point très important, qui a des critères. Les critères, c'est il faut du personnel formé, en nombre suffisant, stable, travaillant en équipe. Vous êtes opéré, et si l'infirmière est habituée à être dans le service, elle voit que vous allez mal, elle sait, elle dit au chirurgien, il va mal, peut-être qu'il fait une embolie pulmonaire. Bon, si vous avez des intérimaires, si vous avez des personnes qui sont en nombre très insuffisant, ben vous aurez une dégradation de la qualité. Donc, quand on dit on va payer à la qualité, ça je me méfie beaucoup, parce que ça veut dire qu'on paye pas la qualité, on paye des indices de qualité. C'est comment on mesure la qualité. Le danger, c'est que dans tout ça, on copie les anglo-saxons avec 10 ans de retard. Et en général, on met en France en route quand eux disent ça marche pas.
Alors l'efficacité, on l'a vu à l'instant, est le maître mot du nouveau management public. Sauf qu'en l'occurrence, il est très difficile de mesurer l'efficacité, la qualité des soins à l'hôpital. C'est ce que nous dit André Grimaldi. C'est également votre point de vue, Nicolas Bellorger.
Oui, tout à fait. La mesure de la qualité des soins à l'hôpital, c'est comme le monstre du Loch Ness, ça revient régulièrement. Et en fait, ce qui est amusant, c'est qu'avec le nouveau management public, on a longtemps complètement ignoré cette dimension de qualité. C'est-à-dire que au début des années 2000, par exemple, quand on commençait à l'importer dans l'hôpital, on ne parlait pas de qualité.
On l'a importé d'abord pour des questions de rationalisation économique.
Complètement, on l'a apporté pour des questions d'économie budgétaire. Alors on employait un mot à ce moment-là, qu'on continuait à employer, c'est celui d'efficience. Pourquoi ? Parce que, on va dire sémantiquement, c'est proche d'efficacité. En fait, c'est un anglicisme un petit peu, puisque les Anglais avaient commencé à parler d'efficiency. Ça masque surtout le concept sous-jacent qui, d'un point de vue économique, puisqu'on a une émission sur l'écho, on peut y aller, c'est purement une question de productivité, hein, c'est-à-dire combien vous produisez avec quels intrants.
Alors justement, quelle forme ce nouveau management public prend-il à l'hôpital ? Pour commencer à donner quelques exemples, Nicolas Bellorger.
Par exemple, dans les services d'urgence, l'objectif, ça a été de réduire le temps de passage des patients. Alors, pourquoi ? Ben, tout simplement parce que si votre patient passe plus vite, eh ben, vous avez besoin de moins de médecins et de moins d'infirmières pour traiter le même volume de patients. Mais ça, c'était pas dit, parce que si vous dites ça à un médecin, à l'origine au moins, et ben le médecin va s'y opposer. Et comme c'est une profession dominante à l'hôpital, qu'il a encore pas mal de marge de manœuvre, et bien cette volonté politique s'émoussait à leur contact. D'où la reformulation dans le sens de efficience. Et finalement, après coup, les promoteurs de cette politique se sont rendus compte qu'effectivement, ça serait bien de parler de qualité. Parce que typiquement, quand on parle aux soignants, donc par soignants, j'entends médecins, infirmières, aides-soignantes, tous ceux qui sont au contact direct des patients. Quand on parle aux soignants de productivité, ils ont tendance à vous fermer la porte au nez en disant « moi je soigne », ce qu'on comprend très bien. Si vous leur parlez de qualité, en revanche, là, ils accrochent. Donc le slogan qui a été inventé à l'époque, c'était « qualité et efficience, l'hôpital avance ».
Et là, on est à quelle époque? Parce qu'il y a eu de multiples réformes de l'hôpital qui se sont succédées depuis le début des années 90.
Ça, c'était 2005, mais si vous voulez, l'idée est restée la même, elle n'a pas bougé d'un iota jusqu'à maintenant.
Et c'est cette idée qu'on retrouve au cours de toutes ces réformes qui ont eu lieu, qui se sont multipliées depuis les années 90. C'est l'idée de faire des soignants, des gérants d'entreprise avec une rhétorique, comme vous le dites, qui évolue.
Voilà. Et alors c'est très gênant au bout du compte parce qu'on ne fait pas de qualité, au contraire on fait de la non-qualité. Parce que pour poursuivre mon exemple, quand on réduit le temps de passage des patients, on va les soigner effectivement plus vite, mais on va les soigner moins bien. Et ça se voit statistiquement au niveau local, ça se voit au niveau national. On a observé que plus les services étaient financièrement incités à réduire le temps de passage des patients, même plus les médecins coopéraient avec cette politique, plus individuellement, on peut le voir, le taux de retour augmentait. Donc ça veut dire quoi si vous êtes médecin aux urgences? Ça veut dire que vous allez voir les patients beaucoup plus vite, vous allez être bien noté parce que temps de passage court. En plus, dans la sphère publique, c'est un argument qui passe très bien, parce que vous êtes usagère des urgences, comme n'importe qui. Si on vous dit, vous voulez attendre plutôt longtemps ou plutôt pas longtemps, bah forcément, on voudrait attendre moins longtemps. Donc, vous allez vous faire avoir, en quelque sorte. Pensez que c'est bien d'attendre moins longtemps. Mais si vous attendez moins longtemps, vous êtes examiné plus rapidement, moins bien, on va vous faire moins d'examens, on va peut-être traiter le symptôme, mais pas la cause profonde, ce qui fait que vous allez rentrer chez vous, et vous allez peut-être déclencher un truc plus grave. Et donc, statistiquement, on voit ceux qui ont le temps de retour, le temps de passage le plus court, ont aussi le taux de retour des patients le plus élevé. Ce qui est dangereux, parce que certains patients ne reviennent même pas, il y en a qui décèdent entre les deux.
Nicolas Matijasic, vous vouliez réagir?
Oui, parce que là, on est vraiment dans un secteur de politique publique où les conséquences du NPM, du New Public Management, se mesurent. Les effets sur l'usager, en fait, de ce type de façon de penser le monde. Et ce que dit aussi Nicolas, c'est la question des effets sur les personnels, c'est-à-dire cette mise en tension permanente des personnels, puisque le New Public Management va avoir des conséquences aussi sur le travail des fonctionnaires, sur le mal-être des fonctionnaires qui ne trouvent plus de sens en fait à leur travail, sauf cette espèce de mantra qui est la rationalisation. Et juste un dernier point pour rebondir, ça pose aussi la question de la formation, et comment on forme dans la fonction publique, comment on parle de ces sujets. Emmanuel Didier le disait avec la haute fonction publique, effectivement on voit que les hauts fonctionnaires se sont convertis au New Public Management, notamment pour garder et dans le cadre d'un intérêt stratégique pour continuer à gouverner. Mais comment on parle de ces sujets, comment on les met en débat dans le cadre notamment de la formation des agents publics? Ça, je crois que c'est une question intéressante.
C'est une question importante, et aussi la question des effectifs qui est le corollaire de ce que vous avez évidemment évoqué en termes de temps d'attente. Alors comment évaluer les effectifs qui sont nécessaires? Est-ce qu'il faut les évaluer en fonction d'une moyenne ou en fonction des pics d'activité? Vous dites que par exemple c'est l'un des points de tension entre soignants et administrateurs, Nicolas Bélanger.
Oui, tout à fait, parce que la situation de départ, ce sont des effectifs qui sont prêts à réagir aux situations les plus difficiles, aux critères de reliability, c'est-à-dire de capacité à réagir aux événements difficiles, de fiabilité. Par exemple, au moment des attentats, les services d'urgence ont été inondés de demandes. Donc là, il était important qu'il y ait beaucoup de monde pour accueillir. Et les services d'urgence sont toujours quelque part un petit peu... Enfin, une de leurs fonctions, c'est d'être prêt à réagir à des événements exceptionnels. Mais ça, c'est ce qu'on appelle une pointe. Mmh. Et donc, ce que voulaient les administrateurs, c'était dire, mais vous délirez complètement, regardez, en moyenne, vous n'avez pas du tout besoin de ce personnel-là. Donc, réduisez. Et puis, si jamais il y a une pointe, on va faire appel à des intérimaires.
Pour des questions économiques, ça paraît pas absurde que d'aller à chaque fois, de prévoir le maximum d'effectifs chaque jour, soit compliqué à assumer.
Alors, c'est comme je le disais tout à l'heure, c'est un arbitrage permanent qui doit être fait entre fiabilité du système et économie de moyens. Les systèmes parfaitement fiables, ils sont même redondants. Vous savez, en informatique, tout simplement, pour que vous ayez un système fiable, il faut qu'il soit dupliqué. Et donc pour les services d'urgence, maintenant c'est absolument hors de question, mais le même raisonnement pouvait s'appliquer. Il faudrait, pour qu'il soit parfaitement fiable, des sureffectifs.
Alors en tout cas, ce qu'on constate, c'est que ce sont les soignants les plus établis, selon la distinction de Norbert Elias, entre les established et les outsiders, qui prendraient le plus de temps avec les patients. C'est ce que vous avez constaté, Nicolas Bellorget. Et par ailleurs, de nombreux travaux sociologiques ont montré que la qualité de l'interaction entre patients et soignants dépendait beaucoup de la position sociale du patient. Est-ce que vous diriez que l'introduction des logiques du privé à l'hôpital a comme conséquence d'entrer un certain renforcement des inégalités sociales?
Oui, absolument. En ce qui concerne les patients, c'est quelque chose de frappant de voir dans des univers même bureaucratiques, même aussi normés que les hôpitaux, qu'en fait il y a de grandes différences de traitement, qu'on le veuille ou pas. Et en fait, plus vous avez de capital social, c'est-à-dire de capital économique, de relations, de savoir-être, de tout ce que vous voulez, plus finalement vous allez être mieux traité. Mieux vous allez être traité.
Parce que vous avez davantage les moyens de réagir au moment de l'interaction, que vous avez d'autres savoirs que vous pouvez mobiliser?
Oui, absolument. Et beaucoup de personnes des classes populaires, quand on leur dit « vous restez là, vous bougez pas », effectivement, « reste là, ne bouge pas ». Et une personne de classe supérieure, on lui dit ça, elle ne le fait pas, elle fait valoir son droit. Et donc, quand vous avez une pression sur les soignants, bien, ils la répercutent en aval, on pourrait dire. Du coup, ce sont les moins bien dotés qui trinquent une fois de plus.
Et sur cette distinction entre les established et les outsiders, et sur ceux qui s'autorisent le plus à prendre du temps, Nicolas Bellorget?
Alors ça, c'est aussi une question de pression. C'est quand votre chef va vous dire, voilà mon coco, maintenant tu vas soigner plus vite, tu vas te dépêcher. Si vous êtes établi, c'est-à-dire au sens où vous n'avez pas de soucis d'emploi, vous n'êtes pas en CDD, vous êtes bien implanté, on va dire, dans la région, vous n'êtes pas l'objet de racisme, vous êtes bien reconnu professionnellement, au nom de votre conscience professionnelle, vous allez pouvoir dire non. Alors que si ces éléments vous manquent, pour prendre l'extrême inverse, vous allez être beaucoup plus fragile, vous allez avoir peur que votre CDD soit pas renouvelé, qu'on va encore vous traiter de sale l'endroit d'où vous venez.
Et beaucoup moins de marge de manœuvre dans la négociation qui peut survenir. Et en tout cas, Nicolas Bellorget, ce qui est intéressant, c'est que c'est la T2A, la tarification à l'activité, qui cristallise les tensions à l'hôpital. Il s'agit d'un système qui rémunère les établissements en fonction de l'activité médicale qu'ils réalisent. Il représente aujourd'hui à peu près 70% des ressources des hôpitaux publics. Est-ce que vous pouvez nous expliquer dans quel contexte cette tarification a été mise en place?
Oui, tout à fait. C'est aussi l'importation d'un mécanisme américain qui vise en fait à plafonner le remboursement maximal par type d'opération. Elle a été importée en France, ça a pris 20 ans à peu près, parce qu'il y avait une forte opposition du corps hospitalier. L'objectif final, c'est ça, c'est une rémunération forfaitaire et non plus en fonction du coût réel.
Alors, cette T2A, elle est critiquée parce qu'elle entraînerait une course à la rentabilité plutôt que d'inciter à rationaliser les dépenses. C'est ça qu'on lui reproche, c'est qu'elle serait inflationniste?
D'abord, elle est source d'inégalité de traitement. Parce que les patients les plus lourds, ceux qui sont les plus coûteux, vont coûter plus que le forfait. Et donc, c'est une puissante incitation pour les hôpitaux et pour les soignants à ne pas les prendre. C'est inflationniste dans le sens où les hôpitaux vont avoir tendance à faire deux fois le même type d'opération, prendre plutôt deux fois une personne une semaine plutôt que de la prendre 15 jours. Comme ça, ils auront deux fois le paiement. Alors que sinon, ils auraient seulement un paiement pour 15 jours.
Et puis le risque, c'est aussi que les hôpitaux se spécialisent dans les activités rémunératrices et délaissent les autres, c'est-à-dire par exemple la chirurgie de la hanche plutôt qu'un suivi psychiatrique au long cours.
Absolument, parce que la chirurgie de la hanche ou des opérations analogues sont beaucoup plus facilement bornées, définies en termes médicaux et financiers. Donc ça, c'est facile, on sait où on va, il y a beaucoup moins d'incertitude. C'est ça la clé aussi, c'est la gestion de l'incertitude. La T2A reporte toute l'incertitude en bout de chaîne sur les patients. Et donc, du coup, cure psychiatrique au long terme, on ne sait pas du tout combien de temps ça va prendre, combien ça va coûter, etc. Donc, ça désincite les soignants à s'engager là-dedans.
Et donc, on va pousser, par exemple, les professionnels à rechercher plutôt le bénéfice financier pour l'institution. Et cela va passer, par exemple, par le développement de la chirurgie ambulatoire, le fait que le patient reparte le jour même de son admission. C'est ce qu'on constate, Nicolas.
La chirurgie ambulatoire, c'est un mécanisme différent, mais c'est aussi une logique budgétaire. Les gestionnaires se sont aperçus depuis longtemps qu'une grande partie des coûts à l'hôpital, en fait, c'était pas les soins, mais c'était l'hébergement. Et donc, les chirurgies ambulatoires, c'est l'hébergement devient totalement à la charge des patients et de leurs proches, c'est plus l'hôpital.
Mais alors, il y a eu une déclaration d'Agnès Buzyn à Libération en décembre 2017, voilà ce qu'elle dit. On a fait croire à l'hôpital public qu'il devait se concentrer sur des activités rentables, qu'il devait se sentir une âme d'entreprise. Cette logique est arrivée à son terme. Fin de citation. Est-ce que vous diriez, Nicolas Bélanger, qu'on assiste à un virage de la part des autorités par rapport à ce nouveau public management à l'hôpital? Comment est-ce qu'il faut interpréter ces propos?
Je pense que c'est un virage discursif parce que Agnès Buzyn, elle reprend une critique qui est énoncée depuis longtemps par l'opposition hospitalière, notamment André Grimaldi que vous citiez tout à l'heure. Et donc, elle a simplement aligné son discours là-dessus, mais sur le fond, les politiques ne changent pas d'après ce que j'ai pu observer.
Il y a en tout cas une crainte et de plus en plus de directeurs d'hôpitaux publics semblent eux-mêmes souhaiter un changement de statut pour pouvoir, disent-ils, lutter à armes égales sur le marché de la santé avec les cliniques privées.
Ça procède toujours du même mouvement de nouveau management public, mais on n'évalue pas, pour reprendre la problématique chère à Nicolas, à juste titre, on n'évalue pas les effets en bout de chaîne sur les patients. Or, d'après les recherches que je mène actuellement, dans le privé, les soins sont beaucoup plus standardisés, et c'est toujours dans l'hôpital public que sont faits les soins qui ont le plus d'incertitudes. Et donc on ne peut pas tout privatiser au bout d'un moment, il y a quelqu'un qui va payer.
Il y a une inquiétude qu'apparaisse dans le privé, dans le public, pardon, ce qui se passe déjà dans le privé. Vous citez ce directeur d'un établissement de soins privés à Paris qui dit à son chirurgien vasculaire « Il me faut 500 varices par an », qu'on arrive à ce genre de d'écueil.
Oui, je sais plus si je suis pas sûr que la citation soit de moi.
Ah, mais... je l'ai peut-être pioché ailleurs. mais en tout cas, il y a une inquiétude autour de l'extrémité.
C'est une logique productiviste, voilà, où on cherche du coup à faire du chiffre pour faire du chiffre et non plus pour soigner.
Policeman de Ray Gelato sur France Culture dans Entendez-vous l'écho. Nous sommes toujours avec Nicolas Matijazic, Nicolas Bélanger et Emmanuel Didier. Et on va justement parler de la police. Emmanuel Didier, vous avez publié avec Isabelle Bruno cet ouvrage « Benchmarking, l'État sous pression statistique ». Vous montrez comment cette méthode du benchmarking, qui consiste à mesurer pour comparer différents services par exemple, s'est progressivement diffusée dans le domaine de l'action publique et notamment dans la police.
Oui, absolument. c'est ce que nous avons montré.
Alors comment ce benchmarking s'est-il développé, diffusé dans la police, à partir de quel moment?
C'est vraiment intéressant de comparer à ce que vient de dire Nicolas Bellorger, parce qu'il y a vraiment beaucoup de points communs. Donc le benchmarking de la police a été inventé, bon alors, évidemment on peut toujours trouver un antécédent avant, mais l'inventeur est souvent considéré être New York, à New York City, quand... dans les années 80, en fait, donc New York était considérée comme étant une des villes les plus dangereuses du monde. Ça devait poser un problème vraiment. Ça commence à poser un problème pour, y compris pour Wall Street et pour toute la population new-yorkaise. Et donc ils ont développé des méthodes incitatives très fortes qui s'appellent CompStat et que les amateurs de séries télévisées ont pu observer dans la série qui s'appelle The Wire. Je ne sais pas si vous avez, enfin si ça vous parle. Où donc il s'agissait de demander aux commissaires de quartier de produire des statistiques sur leur propre la criminalité dans leur quartier et l'activité de leur service, et ils étaient convoqués devant le chef de la police et ils devaient montrer que l'activité avait bien servi à faire baisser la criminalité. Donc c'était vraiment devenu un exercice complètement statistique. Cet exercice a tout de suite eu beaucoup de succès en France, enfin dans le monde entier d'ailleurs, ça a été complètement globalisé.
Mais d'abord, est-ce qu'il a fait ses preuves à New York?
Alors c'est toujours la même chose. Il y a plein de sociologues, d'économistes qui ont travaillé à essayer d'estimer, d'évaluer statistiquement les résultats de CompStat. Les chercheurs ne tombent pas d'accord.
Donc, criminalité a baissé plus globalement, voilà. Mais il y a d'autres paramètres.
Alors, en fait,
peut-être,
c'est très intéressant, c'est que voilà, exactement. En fait, la criminalité a baissé à New York clairement après l'imposition de CompStat, ça c'est sûr et certain. Mais le problème, c'est qu'elle a baissé dans toutes les autres villes. Donc, la deuxième question, c'est est-ce qu'elle a baissé plus à New York qu'ailleurs? Et c'est là que les choses subtiles apparaissent.
Et alors, vous avez mené avec Isabelle Bruno une enquête de terrain donc sur la politique du chiffre au sein de la police nationale. Comment est-ce que justement donc a été importé en France ce modèle de gestion rationnelle de la police qui est venu de New York?
Alors ça a été importé par le préfet de police de Paris de l'époque qui s'appelait Monsieur Proust, j'ai oublié son prénom, Monsieur Proust, qui était de gauche. C'est très important à savoir. En fait, c'est le gouvernement Jospin qui a rapporté ces techniques, qui ont ensuite été généralisées, disons, par le gouvernement Sarkozy. Donc, on peut pas dire que ce soit associé à un parti politique spécial. En fait, c'est vraiment associé à la haute fonction publique qui a beaucoup cru. C'est pour ça que j'insistais tout à l'heure sur ce point, qui a beaucoup cru à l'idée que on pourrait faire mieux avec autant. Donc, l'idée, c'est une autre chose sur laquelle je veux insister. L'idée dans les années 90, c'était vraiment pas du tout de rétrécir la fonction publique. C'était au contraire, on a de plus en plus besoin de fonction publique et il faut qu'elle soit de plus en plus efficace pour ça.
C'est une manière de sauver l'État, de défendre l'État en montrant qu'il est efficace.
C'est exactement ça. C'était une défense de l'État et non pas du tout un rétrécissement de l'État. Donc je trouve qu'aujourd'hui, Macron, en proposant de supprimer certains services, il fait œuvre vraiment de libéralisme beaucoup plus complet que par le passé. Il a vraiment lu le livre américain en entier qui dit ça, en fait. Les livres américains disent il faut supprimer certains services et rendre les autres plus efficaces. En France, jusqu'à maintenant, on n'avait pas tellement osé parler de la première partie.
Nicolas Matijasic.
On peut pas minorer quand même que sous Sarkozy, notamment avec ce qu'on appelle la révision générale des politiques publiques, le discours sur le non-remplacement d'un fonctionnaire sur deux, sur la réorganisation de l'État, que en fait les germes, et ce que disait Nicolas avec la LOLF au début des années 2000, les germes assez puissants du New Public Management sont là depuis les années 2000. Alors là, on va arriver probablement à un nouveau stade, mais disons que le discours ambiant était
En termes de supprimer un certain nombre de fonctionnaires. Mais
Alors cette méthode du chiffre, pour revenir à la question de la police, a d'autant plus intéressé en France, que l'expérience de la police de proximité lancée à la fin de la décennie 90 avait achoppé à cause justement des difficultés d'évaluation. Emmanuel Didier.
Exactement. En fait, il y avait deux problèmes avec la police de proximité, la police de sécurité publique. Donc c'est une période où le nombre de prédations, comme on dit, a augmenté beaucoup. Donc il y a beaucoup plus de vols. De vols comme ça dans la rue, etc. Donc il fallait de cambriolage. Alors il y avait deux problèmes. C'était d'une part qu'il fallait réussir à convaincre les commissaires en particulier qui ont des marges de manœuvre dans l'administration à venir travailler pour la police de sécurité publique, parce que c'était une police qui était plutôt dévalorisée au sein de la police. Évidemment, c'est plus classe d'arrêter Mesrine que d'arrêter un petit voleur à la tire, vous voyez. Donc on
ou préfère même de faire du travail de prévention pour empêcher que le
donc c'est très difficile d'attirer ces gens-là. Et en leur disant on va compter combien d'arrestations vous faites et vous pourrez prouver que vous avez été extrêmement efficace en nombre, ça a été un argument assez important pour convaincre convaincre les commissaires. Et l'autre problème, effectivement, ça c'est un truc très difficile, c'est que quand, si vous avez un quartier où il n'y a pas de problème, est-ce qu'il n'y a pas de problème parce qu'il n'y a pas de problème? Ou est-ce qu'il n'y a pas de problème parce que la police agit de façon efficace? C'est ça le problème. Donc ça, c'était, et alors ça, c'est, ça pose des problèmes statistiques très complexes.
Alors, ces transformations managériales ont-elles tenu leurs promesses d'efficacité? Écoutons le sociologue Mathieu Rigous nous parler des effets pervers du système des MAD, les mises à disposition.
Donc, une mise à disposition, c'est un point dans la carrière et d'un commissaire, pour un commissariat et puis aussi pour des policiers. C'est le fait de, eux disent faire une affaire, les BACU, ils disent faire des crânes souvent. Et ben c'est le fait quand t'attrapes quelqu'un et que tu peux transformer son cas en affaire judiciaire, hein, qui va être donc le procureur va ouvrir une procédure et que cette procédure va avoir une conclusion judiciaire, ça fait un point. On s'appelle ça une MAD, une mise à disposition. Et donc, un commissaire qui a envie de faire carrière, qui a envie de grimper, il a tout intérêt à développer des unités qui fabriquent beaucoup de MAD. Une MAD, donc une mise à disposition, on en fait une en attrapant une personne sans papier, par exemple. Chaque arrestation de ce type-là, ça fait une MAD. Mais arrêter un délinquant financier, ça ferait une MAD aussi, un truc pour lequel il faut plusieurs mois, plusieurs années d'enquête et pour lequel on va se confronter à des antagonismes face à des magistrats, des politiciens.
Emmanuel Didier, on voit bien ici les dérives auxquelles peut mener ce système de points.
Alors c'est très intéressant. Il connaît ça très bien, Mathieu Rigouste. Non, en fait, je voudrais insister sur un autre, juste pour dire un élément de plus, c'est que quand donc les techniques ont été mises en place, elles ont plu donc à la haute fonction publique de la police, mais elles plaisaient aussi aux outsiders parce que c'est intéressant parce que la fonction des outsiders, d'une part, ils n'ont pas tellement de ressources pour critiquer si jamais
Nouveaux venus, par exemple.
Oui, pardon, les nouveaux venus. Mmh. Et dans la police, c'est souvent les femmes, en fait. La police a été féminisée à cette période-là. Elles avaient pas mal envie de prouver qu'elles étaient capables d'être des bons fonctionnaires, vous voyez. Donc, ce nouveau management public, ça leur a aussi servi à s'implanter, quand même. Donc, c'est quand même c'est très ambigu. Mais ce que ça provoque, et ça a été prouvé absolument partout, aux États-Unis, c'est clairement établi, en France, maintenant, ça a été clairement établi, le problème, c'est que ça incite la police à chanstiquer. C'est un mot d'argot policier que je reprends, ils appellent ça chanstiquer.
Ça
vient du verbe changer, et avec le suffixe tiquer, dans les films des années 30, on dit par exemple, pour une prostituée qui ferait des passes, on dirait, je pastiquais, vous voyez, donc c'est chanstiquer, c'est-à-dire changer les chiffres, en fait. Et l'idée, c'est comme les policiers doivent d'une part prouver par leur activité qu'ils ont fait baisser la criminalité, ça présuppose quelque chose qui est que la criminalité est décrite de façon indépendante de la police et que le commissaire peut faire varier l'activité. Mais la criminalité, en fait, c'est la police qui l'enregistre. D'accord ? Donc, en fait, il est possible au moment de l'enregistrement de jouer avec les chiffres à la marge. Les policiers rarement font des vrais faux. Mais on peut toujours jouer sur les règles de la statistique, le bord de la statistique, vous voyez. Et donc, du coup, ça engendre une description de la réalité qui est complètement fausse, en fait. On peut tout à fait provoquer et créer des situations où la réalité n'est pas décrite de façon réelle. Alors, du coup, ça pose un problème parce que on évalue l'efficacité d'une police au nom d'une réalité qui est fluctuante elle-même. Vous voyez, donc en fait le mécanisme se met à tourner en rond et n'est plus du tout n'a plus de sens. Je voudrais insister sur le fait que ça, à mon avis, ce mécanisme-là a maintenant été clairement identifié par les bureaucraties diverses. Il y a eu, par exemple, des missions d'enquête au sein de la police, d'une part à la préfecture de police de Paris et d'autre part dans la police nationale, qui ont vraiment établi ceci de façon claire. À New York, c'était exactement la même chose. Enfin, vous voyez. Donc, en fait, maintenant, cette étape de trouble vis-à-vis des chiffres, je pense quand même.
C'est en train d'évoluer.
Voilà, c'est en train d'évoluer. Voilà.
Et alors, cette politique du chiffre, en tout cas, elle s'est manifestée lors des arrestations, avant les manifestations des Gilets jaunes. Les arrestations étaient comptabilisées et le nombre était annoncé aux journalistes comme un gage d'efficacité. On voit en tout cas que dans la rhétorique, c'est encore extrêmement présent, Emmanuel Didier.
Absolument, c'est tout à fait vrai. Alors, il y a une chose qui est importante à dire, c'est que du coup, par exemple, un des gages d'efficacité de la police a été de leur demander de faire de plus en plus de contrôle d'identité, vous voyez. Alors, ce qu'on a pu montrer, ça rejoint tout à fait ce que dit Nicolas, c'est que les contrôles d'identité, dans ces cas-là, quand on en fait de plus en plus, ils se dirigent systématiquement vers les minorités, et donc ça provoque une police qui se comportent de façon raciste. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. C'est-à-dire que je ne sais pas du tout si les policiers sont racistes ou pas. D'ailleurs, je pense que a priori non. Mais il se trouve que le comportement fait que en fait ils contrôlent beaucoup plus les gens qui ont des signes extérieurs, des minorités visibles. On appelle ça. Voilà. Et donc voilà. Alors le problème, le cas des arrestations là cette fois-ci est pour les gilets jaunes est intéressant parce que c'est pas du tout la même police. La police de maintien de l'ordre, celle qui s'occupe de contrôler les manifs, c'est pas la même que celle qui s'occupe de la sécurité. Mais ceci dit, vous avez tout à fait raison. On peut tout à fait interpréter cette abondance de chiffres sur les arrestations avant et après comme une gage d'efficacité. Étrange d'ailleurs parce que on sait pas très bien.
Et vous appelez d'ailleurs Emmanuel Didier à un autre usage du chiffre. Voilà. C'est le sens de votre ouvrage, un usage du chiffre qui ne soit pas au service du management et du néolibéralisme. Vous dites que ces chiffres peuvent être aussi utilisés autrement.
Voilà, c'est très important. Donc c'est l'exemple que je vous ai donné. En fait, il y a par exemple des sociologues qui, dans la police, pour étudier la police, se sont cachés dans la gare du Nord. C'était des sociologues qui se sont cachés gare du Nord et ils observaient tous les contrôles d'identité qui ont pu être réalisés pendant une certaine période et ils ont comptabilisé aussi les gens qui passaient dans la gare du Nord et ils ont pu montrer que donc les minorités visibles étaient contrôlées beaucoup plus. L'activité qu'a faite Nicolas Bélanger à côté de moi mesurer le taux de retour des patients à l'hôpital, c'est exactement la même chose. Ça permet des statistiques qui ne sont pas managériales mais qui permettent au contraire de se donner un point de vue extérieur à l'entité bureaucratique pour l'évaluer et souvent la critiquer.
Nicolas Bélanger, vous vouliez réagir?
Oui, c'est là qu'il faut être extrêmement vigilant et que le débat démocratique peut être utile, je pense. C'est au moment du choix d'un indicateur du chiffre. Dans le cas des urgences, il a été imposé en fait d'en haut cette histoire de temps, de durée de passage. Ceux qui le contestaient ont été muselés, on va dire, avec différentes méthodes. Alors que c'est là en fait où il y a place pour un débat au niveau des usagers, au niveau, je pense, de la représentation nationale. Quels indicateurs font sens, quels indicateurs ne font pas sens?
Nicolas Matijazic.
Et ça, effectivement, c'est vraiment un enjeu parce que, en fait, le New Public Management nous dit c'est apolitique. Le management, la rationalisation, tout ceci n'implique pas de valeur. Alors qu'il y a des valeurs, en fait, sous-jacentes derrière le New Public Management. Elles ne sont pas mises en débat parce qu'elles sont enfermées, en fait, dans une espèce de scientificité. Puisque le chiffre a dit ça, puisque le chiffre, c'est rationnel, c'est objectif, on ne peut pas, en fait, être contre ça. Parce que si on est contre ça, en fait, c'est qu'on n'est pas dans le sens de l'histoire. Et effectivement, le chiffre n'est pas neutre. Et c'est ça aussi qu'il faut réussir à questionner.
Exactement. Il y a un usage politique du chiffre qui s'appuie sur sa scientificité. Alors qu'il est politique.
On arrive presque au terme de cette émission. La question qui se pose, peut-être pour conclure, c'est est-ce qu'il est possible d'inventer un management qui soit inspiré du privé, d'imaginer une politique qui prenne en compte les chiffres, les statistiques, et en même temps qui conserve le sens et la mission des services publics? Emmanuel Didier, Nicolas Bélanger.
Oui, alors, en fait, à la place de management, on peut parler de gestion. Et en fait, avant, ça s'appelait l'administration. C'est une forme de gestion publique qui prend en compte non seulement les deniers publics, mais également l'égalité d'accès, le respect des règles.
Est-ce qu'il n'y a pas quand même des leçons en termes d'efficacité à prendre du côté du privé? Est-ce qu'il n'y a pas des choses sur lesquelles on pourrait s'inspirer, qu'on pourrait récupérer?
Pour le moment, j'en cherche.
Nicolas Matijazic.
Effectivement, tout ça est subtil, en fait. Je crois que le New Public Management, en fait, a une difficulté, c'est qu'il nous dit qu'il faut appliquer ce qui se passe dans le secteur privé, qui serait bénéfique, bon, efficace, et l'appliquer sans réflexion, en fait, au secteur public. Alors que les choses sont bien plus subtiles, et c'est là-dessus, en fait, qu'il faut qu'on réussisse à s'interroger, parce que le secteur public pourrait très bien aussi inspirer des méthodes dans le secteur privé. C'est-à-dire que il y a aussi du génie, de la créativité dans le secteur public qui pourrait très bien innerver les pratiques dans le secteur privé. Donc c'est ça aussi c'est cette mise en débat qu'il faut faire.
Emmanuel Didier, il y aurait des méthodes du privé qui trouveraient grâce à vos yeux?
En fait, c'est pas ça ce que je veux dire. Ce que je veux dire, c'est que comme vient de le dire Nicolas, depuis toujours, en fait, il y a pas une frontière étanche entre le public et le privé, et il y a des échanges dans les deux sens, comme vous venez de le dire, entre les deux. Et notre boulot, c'est plutôt en fait d'observer comment ça se déplace que de, je dois dire que on n'est pas très très fort en proposition, j'ai tendance à dire ça, mais notre boulot c'est plutôt d'expliquer et de comprendre qui sont les gens qui s'intéressent à l'autre côté de la frontière et de comprendre comment eux font des déplacements, c'est plutôt ça.
En tout cas ce qu'on a essayé de faire au cours de cette heure. Un grand merci à tous les trois. Et c'est l'heure de retrouver Arjuna Andra pour les nouvelles de l'écho. Bonjour Arjuna.
Bonjour Tiffaine, bonjour à tous.
Vous avez choisi de revenir aujourd'hui sur une information passée, selon vous, relativement inaperçue. Le gouvernement a eu recours à un cabinet d'avocats pour l'écriture d'une de ces lois.
Absolument. Le ministère des Transports a ainsi procédé à un appel d'offres éclair visant à sous-traiter l'écriture d'une partie de sa loi sur les mobilités dévoilée à la fin de l'année dernière. À l'époque, à peine quelques lignes dans le Canard enchaîné, toujours bien informé et qui s'étonne de voir la captation par un cabinet privé d'un rôle normalement dévolu au ministère proposant le texte. Il faut dire que cette innovation du gouvernement a de quoi surprendre. Largement pratiquée dans les pays anglo-saxons, le recours à des cabinets de conseil et d'avocats et pour l'élaboration de certaines lois reste en France très mal vu. Dans un pays de tradition étatiste et jacobine, le fait de recourir à des acteurs privés est perçu comme une forme de renoncement de l'État à ses prérogatives et comme une dérive conduisant immanquablement à des risques de conflits d'intérêts.
D'autant que l'exposé des motifs d'une loi est un document particulièrement sensible, Arjuna.
Oui, car c'est un texte éminemment politique. Comme l'explique un article du Monde au sujet de cette affaire, l'exposé des motif n'est autre que l'argumentaire politique du gouvernement envers les députés. Une introduction visant à faire connaître l'esprit et la finalité de la loi et qui la replace dans une vision du monde subjective, politisée. Loin de l'illusion d'un gouvernement des experts fonctionnant autour de cabinets ministériels efficaces, resserrés, s'appuyant sur la connaissance neutre et chiffrée des spécialistes d'un sujet, l'élaboration d'une loi repose évidemment sur des prémices politiques, idéologiques même. Laisser à une entreprise privée la haute main sur ces questions, c'est donc donner un blanc-seing à la vision portée par cette même entreprise qui n'a peut-être que peu à voir avec l'intérêt général. On connaissait en France la remise d'amendements clés en main à des députés par des entreprises privées et des lobbies, mais jamais un gouvernement n'avait osé recourir à une entreprise pour l'écriture d'une loi.
Si bien que ces cabinets d'avocats sont désormais obligés de s'inscrire sur le registre de transparence du Parlement qui répertorie l'ensemble des lobbyistes opérant dans les murs de l'Assemblée et du Sénat.
Exactement, au même titre que les cabinets de conseil par exemple. En l'occurrence, c'est le cabinet d'avocats international Dentons qui a été choisi par le gouvernement. Un cabinet dirigé par Marc Fornaciari, ancien maître des requêtes au Conseil d'État et spécialiste des transports et des infrastructures. Ce que révèle cette décision du gouvernement, c'est donc la circulation incessante entre le politique, l'administration et le barreau, mais aussi la proximité croissante entre élites du public et du privé, avec tous les problèmes que cela pose en matière de captation de l'intérêt général par des volontés d'ordre privé. Mais comme nous l'explique un article du quotidien AOC, cette affaire pose aussi la question de la préséance croissante du privé sur le public. Alors que jusqu'à présent, les cabinets d'avocats pouvaient s'enorgueillir de conseiller ou d'influencer un gouvernement, c'est désormais le gouvernement qui fait appel au cabinet d'avocats comme un gage de qualité et d'efficacité, désavouant dans le même mouvement le travail des administrations centrales.
Certains parlent même d'une captation par le privé des compétences du public.
Exactement. C'est d'ailleurs ce qu'explique ce même article d'AOC qui pointe l'absurdité d'un système d'externalisation de l'expertise publique facturé à l'État par d'anciens commis de l'État, bien souvent formés par ce même État. On notera tout de même que les rémunérations dans ces cabinets de conseil et d'avocats sont bien plus élevés que celles ayant cours dans l'administration, fût-ce la haute fonction publique, dans une logique de bon usage des deniers publics. Des membres de la majorité expliquent aujourd'hui que cette évolution était rendue nécessaire par la diminution de la taille des cabinets ministériels voulus par ce même gouvernement. Une explication qui ne manque pas de nous faire penser à la logique qui a prévalu dans le rail public, la diminution de la fréquence des trains servant de cause et d'explication à la décision de fermer les petites gares en région.
Will Take Care of Me, chante l'auteur, compositeur californien Cass McCombs. Merci beaucoup Nicolas Matijazik, Nicolas Bellanger et Emmanuel Didier de nous avoir accompagnés aujourd'hui. On indiquera sur le site les références de vos différents ouvrages. On se retrouve demain pour une série consacrée au chômage avec une première émission consacrée dédiée à l'histoire de la conquête d'un droit. En attendant, vous pouvez écouter ou réécouter toutes nos émissions sur le site de France Culture, franceculture.fr et en podcast. Rendez-vous également sur Twitter, hashtag Entendez-vous l'écho.